fin de l'intervention de Alain Grèche, on parlait du monde de la colonisation. Et je pense que je vais partir à partir de, justement de cette colonisation que Israël pose sur les Palestiniens. Hier, dans la conférence que j'ai eu l'occasion de donner à Micha, je n'ai pas parlé de côté de la Nakba, qui serait aujourd'hui plutôt au centre de mon intervention, puisque c'est aussi aujourd'hui, enfin ce jour-ci, c'est la commémoration de la Nakba chez les Palestiniens. La Nakba, alors allons-y directement, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps. La Nakba, en arabe, ça veut dire la catastrophe. La catastrophe chez les Palestiniens, c'est lorsque, évidemment, le force sioniste ont réussi à imposer leur projet, non seulement sur le plan politique, à travers la puissance coloniale de l'époque, l'Angleterre et la France, mais aussi au-delà, à acter la possibilité de construire l'État d'Israël en Palestine, avec évidemment toutes les tricheries diplomatiques possibles pour ne pas dire les choses telles que je viens de le dire à l'époque, telles que je viens de le dire maintenant, c'est-à-dire de manière claire, c'était bien ça le projet. Et c'est ce projet qui va être réalisé en Palestine. Et la réalisation de ce projet, ça avait comme conséquence la fin de la présence palestinienne en Palestine. Les sionistes disaient ou pensaient non pas la fin de la présence palestinienne, mais parlaient de la fin de la présence arabe en Palestine, puisque ils n'ont jamais considéré les Palestiniens de Palestine comme étant des Palestiniens. Selon eux, nous ne sommes que des Arabes qui passons, que l'histoire a fait qu'on est passé, on s'est installé en Palestine, mais la Palestine n'est pas au peuple palestinien, la Palestine est au peuple juif. C'est alors que la Palestine, elle est ni aux Palestiniens, ni au peuple juif, ni au peuple arabe, la Palestine est à ses habitants. Et la Palestine a connu beaucoup d'habitants, dont les Arabes et dont les ce qu'on appelle les Palestiniens depuis bien longtemps. Ça, c'est à la limite, c'est une question qui peut paraître sans importance. Néanmoins, autour de cette question, le sionisme va aussi mettre en place toute une stratégie de communication extraordinairement efficace qui permettrait à ce que, à la fois par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire l'État d'Israël naissant en Palestine, un État naissant il a besoin de se fabriquer une histoire, il a besoin de se fabriquer des alibis sur ce qu'il fait, il a besoin d'expliquer aux enfants qui vont naître d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et pourquoi cet ennemi, pourquoi l'arabe est un ennemi, etc. Donc, ils vont le faire, et comme d'ailleurs ils ont toujours excellé dans tout ce qu'ils font, il faut leur reconnaître cette capacité à bien stratégiser et à bien mettre en œuvre leur projet de 1797 à aujourd'hui. Et parfois, ils n'y arrivaient pas pour des raisons diverses et variées. Mais ce n'est pas le plus important dans notre propos aujourd'hui. Cette la construction de l'État d'Israël en Palestine, la naissance de l'État d'Israël en Palestine, n'aurait été possible sans le soutien, et d'une part le soutien des forces de l'Angleterre et de la France, enfin de la Grande-Bretagne et de la France, d'une part, mais aussi sans ce qui venait de se passer en Europe. Là aussi, j'en avais parlé hier longuement. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, juste très rapidement, que sans le crime nazi qui ont eu lieu et qui ont massacré 6 millions de juifs en Europe, sans doute que l'histoire de la région du Moyen-Orient n'aurait probablement pas été ce qu'il est devenu. Encore que ça reste, bien entendu, on ne pourrait pas parier là-dessus. Mais tout état de cause, ce qui est clair est que ce crime de massacre de juifs européens par les Européens a conduit à ce que les Palestiniens en subissent les conséquences, à la fois par la construction de l'État d'Israël, mais aussi par tout ce qui va suivre après cette construction. Et les Palestiniens en subissent les conséquences encore aujourd'hui, et les amis de la Palestine en subissent les conséquences encore aujourd'hui. Vous aussi, ceux d'entre vous qui soutiennent la question palestinienne, vous en subissez les conséquences aujourd'hui, puisque à chaque fois que vous défendez ou que vous voulez défendre la question palestinienne, on vous explique que défendre la question palestinienne est une chose, mais s'attaquer à Israël, ça en est une autre. Or, le drame du peuple palestinien, c'est l'existence même de l'État d'Israël, et ce n'est pas un drame, ni un drame naturel, ni un drame qui vient d'ailleurs. C'est ce qui est arrivé aux Palestiniens, le Nakba qui a frappé les Palestiniens en 1948, c'est bien par la construction et la naissance de cet État qui depuis arrive à avoir le soutien inconditionnel du monde occidental, particulièrement de l'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne et bien d'autres pays. Enfin, après, les choses ont plus ou moins changé, mais très certainement encore aujourd'hui, on pourra en dire quelques mots peut-être tout à l'heure, le monde politique occidental est un monde qui est au service de projets sionistes, sans aucun doute, à tout point de vue. Et depuis 1948, après donc l'expulsion et la tuerie, le grand massacre qui a eu lieu en Palestine, ici et là, pour faire partir les Palestiniens, et comme vous le savez, beaucoup de Palestiniens ont quitté la Palestine vers la Jordanie, vers le Liban, vers la Syrie, pour fuir les milices sionistes de l'époque, puisque qui vont constituer d'ailleurs plus tard, ce qui allait devenir le Tsahal, l'armée d'Israël. Et l'ONU de l'époque avait acté que normalement les Palestiniens avaient droit à un État, on parlait d'État arabe d'ailleurs, et aussi avait acté que tous les réfugiés devraient pouvoir rentrer chez eux. Il n'en est rien encore aujourd'hui, il n'en est rien, bien entendu. Alors, quelques mots sur la Nakba. La Nakba, elle est donc dans la chair de Palestiniens, et je dirais que la Nakba n'est pas aujourd'hui à mettre dans les... Il faudra en parler dans les livres d'histoire, non pas parce que c'est un événement, seulement un événement historique, et non pas parce que c'est une vieille histoire, mais pour vraiment à titre éducatif, il faut absolument que nos enfants sachent ce qui s'était passé. Et ce qui nous ramène à une question fondamentale, c'est la question de la vérité. Or, la question israélo-palestinienne est une question qui peine à pouvoir bénéficier de la vérité de ce qui s'était passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui en Palestine. Et en même temps, la Nakba est encore vivante. C'est que les gens ne savent pas. Il faut savoir que les survivants de 1948 sont vivants, puisque ils sont des survivants, mais ils sont là, les camps de réfugiés, il y a encore plein de gens qui parlent de ce qui leur est arrivé. Et donc, il ne faut surtout pas parler aux Palestiniens en termes de Nakba, comme si la Nakba était une affaire historique de quelques décennies dont on en fait quelque part un acte de souvenir. Non, la Nakba est encore présente dans la vie de milliers de Palestiniens et qui se trouvent dans les camps de réfugiés, mais aussi ailleurs. Un peu à travers le monde, y compris en Occident, en Amérique et dans les pays arabes. Le deuxième point que je voulais signaler sur cette question de la Nakba, est que si on veut être honnête avec le déroulement de ce qui s'était passé depuis 1948, Il faudrait dire que, après la grande Nakba, les Palestiniens ont subi de petits Nakba. Ils ont subi le petit Nakba dû aux directions arabes de l'époque. Les Palestiniens ont toujours eu un problème avec les directions politiques depuis que la Palestine est visée par le projet sioniste, et à chaque étape de l'histoire de la Palestine, les directions palestiniennes n'ont pas été à la hauteur. On retrouve ça aussi dans d'autres pays arabes, bien entendu. Et cette incapacité de direction arabe à être à la hauteur face à l'événement, qui sont des événements graves, des événements qui ont déstructuré la Palestine, qui ont détruit la Palestine, et qui ont opéré une véritable génocide social sur la société palestinienne. J'entends bien par le mot génocide social, et les Palestiniens n'ont pas été... Il y a eu beaucoup de morts chez les Palestiniens, mais on n'a pas supprimé l'ensemble des Palestiniens. En revanche, on a totalement déstructuré la société palestinienne. Et cette destruction de la société palestinienne va continuer à subir des événements extrêmement graves en dehors de la Palestine. La présence des Palestiniens en Jordanie, la guerre entre les Palestiniens en Jordanie et la Jordanie, le passage des Palestiniens au Liban, Sabra et Shatila, comme vous le savez sans aucun doute, et par la suite, toute cette volonté de chez les Palestiniens ou des directions palestiniennes de vouloir négocier une éventuelle donc paix avec l'État d'Israël, ce qu'il y a depuis 1988 avec le fameux congrès palestinien à Alger, et à partir de là que les Palestiniens deviennent fréquentables, Oslo va apparaître, et d'où les accords d'Oslo, qui là, pour le coup, ne sont plus un petit Nakba, mais une véritable deuxième Nakba pour les Palestiniens. C'est évidemment un langage que moi-même, je considère qu'Oslo était une très grave pour la question palestinienne et pour l'avenir de la Palestine. Je pense que malheureusement, l'histoire est une histoire quotidienne, de jour en jour, est en train de donner occasion à tous ceux qui pensent comme moi. D'autant plus qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question tout à l'heure, d'autant plus qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir d'État palestinien. Physiquement parlant, les optimistes parlent de 14% de terres palestiniennes non colonisées aujourd'hui. Les pessimistes parlent de 12%. Vous ne construisez pas un État viable sur 12% d'une Palestine qui mine de rien. La Palestine, c'est un petit pays. C'est 74 km carrés, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Hein?
Plus
non, 700. Combien ? 7400 km². Bon, enfin, en tout cas, c'est un petit, ça reste un petit pays. Le projet sioniste en question, parce qu'Israël considère qu'il est toujours un projet. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas accompli son destin. Et son projet continue aujourd'hui à viser de plus en plus de colonisation, d'expulsion de Palestiniens, de rendre impossible la vie en Palestine pour les Palestiniens. Et en même temps, ce qui est d'ailleurs tout à fait le cas au quotidien pour ces Palestiniens qui survivent, qui sont tout le temps dans une situation de survie face aux oppressions diverses et variées, mais en même temps qui avec le temps, justement, ont compris qu'il ne faut pas qu'ils s'adaptent à ce que Israël leur impose. Parce que, comme je le disais hier, en citant Paul Ricoeur, le moment où l'homme ne fait que s'adapter, c'est une manière de s'animaliser, de s'approcher à l'animalité. Et les Palestiniens l'ont compris. Ils ont compris aujourd'hui qu'il n'en est pas question de s'adapter à ce que Israël leur impose. Il faut résister. Et cette résistance se traduit, devient visible aujourd'hui par ce que l'on peut appeler de la résilience chez les Palestiniens, et y compris chez l'enfant palestinien. Comme je disais hier, je rappelais que c'est le seul enfant au monde qui se lève à 5 heures du matin pour aller à l'école, coûte que coûte, alors qu'il traverse il s'approche des colons en allant à l'école. Il faut qu'il aille à une école qui est de l'autre côté du mur, mais il va le faire. Donc les Palestiniens ont appris depuis l'intifada, ils ont appris que la mort des Palestiniens sera totale le jour où le Palestinien ne va plus à l'école. le jour où le Palestinien devient ignorant, ce qui donnera raison, ce qui donnera raison à Ben Gurion et à son premier chargé des affaires des Arabes, comme ça que ça s'appelait, en 1952, lorsque l'affaire du chargé arabe avait déclaré « Moi, j'ai la mission de rendre les Palestiniens des béchoures. » Donc, le mouvement sioniste avait parfaitement compris que si on veut gagner en Palestine et que la colonisation sioniste de la Palestine soit totale, il faut rendre le Palestinien, il faut faire du Palestinien un peuple ignorant. La question que l'on à une telle occasion, la question qui moi, ou les questions qui me semblent être le plus importantes, d'abord pour moi, il faut faire reconnaître la Nakba. Il faut que la Nakba soit étudiée clairement. On a fait beaucoup de progrès, paraît-il, qu'aujourd'hui, si un enseignant à l'école française a envie de parler de Nakba, il peut. Il y a quelques années, il ne pouvait pas. Il n'en était pas question. Aujourd'hui, il peut. Il y a des enseignants qui m'ont assuré qu'ils peuvent, il leur est possible, selon dans leur cours d'histoire, et ils peuvent, s'ils le souhaitent, parler de la Nakba et de ce qui s'est passé en Colombie. Il faut que nous travaillions pour que la Nakba soit reconnue, y compris par les puissances occidentales. Parce que la Nakba, ce n'est pas un Nakba naturel. Il y a eu là un génocide social, comme je viens de le dire, et les forces coloniales en sont responsables de l'époque. L'Angleterre, la France sont responsables de ce qui est arrivé aux Palestiniens. Il faut qu'ils s'expliquent sur cette question, il faut les emmener à reconnaître leurs responsabilités dans ce qui est arrivé aux Palestiniens. Et puis, la deuxième question qui me semble être fondamentale en rapport avec ce que nous venons de dire aujourd'hui comme hier, c'est la comment fait-on pour que la classe politique, il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure, pas très loin de ce que je vais dire, comment fait-on pour que la classe politique française et européenne soit obligée à regarder cette question israélo-palestinienne autrement que tel pays aujourd'hui il le regarde. Je veux dire par là la chose suivante. Je veux dire que j'ai l'intime conviction que pour moi, la question aujourd'hui n'est plus celle de considérer que Israël est une menace pour les Palestiniens, ou seulement est une menace pour les Palestiniens, mais je considère que Israël est aussi une menace pour l'Europe et pour la France. Je considère et je pense que nous pouvons convaincre et nous devons nous mobiliser pour expliquer aux Français, et particulièrement aux politiques français, à nos politiques, à ceux pour qui nous votons, parce que nous sommes des citoyens, mine de rien, et nous sommes nombreux. Il faut que nous disions à ceux à qui on vote que nous considérons que le sionisme et la politique de l'État d'Israël est nuisible pour la France et pour les politiques françaises. Et moi, je vais plus loin. Je pense que nos politiques ne sont plus à la hauteur de responsabilités républicaines qu'ils sont censés assumer de moment où il s'agit de l'État d'Israël et de sionisme. Une grande partie de ces politiques sont incapables de regarder les questions israélo-palestiniennes d'une manière, je dirais, rationnelle. Pour ne pas dire qu'ils sont devenus, de moment où il s'agit d'Israël, ils deviennent, ils acquièrent un comportement irrationnel. Et ça me semble être une question d'une grande importance que nous n'avons, peut-être que nous ne savons pas encore comment le démontrer, comment le faire savoir, comment le dire, comment l'expliquer, mais il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à le faire. Voilà un peu ce que... je ne sais pas si c'est bon pour le... donc voilà les quelques petites questions qui me semblaient être importantes à dire dans une occasion comme celle-ci. Évidemment, je n'oublie pas que une des difficultés du peuple palestinien aujourd'hui, Alain a parlé un petit peu de la direction palestinienne. La direction palestinienne est une direction incapable. Est une direction qui n'est pas à la hauteur de ce qui arrive tout le jour aux Palestiniens. La direction palestinienne devrait, me semble-t-il, d'abord, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de révolution en Palestine. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de mouvement de masse en Palestine. Donc, il a travaillé pour, en quelque sorte, pour montrer que les Palestiniens restent tranquilles sous la colonisation israélienne. Et surtout la direction palestinienne devrait, les deux directions palestiniennes, puisque maintenant, en plus, nous sommes tellement dans une bonne situation qu'on a deux directions. Les deux sont aussi pires l'une que l'autre. Les deux directions palestiniennes devraient ensemble, non seulement travailler ensemble, ça va de soi, mais surtout expliquer et dire au monde entier que négocier, espérer dans la situation actuelle et selon toutes les données que nous avons autour de nous et que tout le monde connaît aujourd'hui, il n'en est pas question de construire un État palestinien viable en Palestine. Et que donc, nous démissionnons, les deux directions doivent démissionner et ils devraient remettre le sort de Palestiniens auprès de la responsabilité de la communauté internationale. Et il faut qu'on explique qu'il ne peut pas y avoir en Palestine désormais qu'un seul État. En tout cas, c'est ma position personnellement. Je pense que aujourd'hui, les Palestiniens ne devront accepter aucune autre proposition que celle d'un seul État démocratique, laïque, dans lequel juifs et musulmans et tout ce que vous voulez, toutes qu'ils puissent, du moment où on est dans un État démocratique et laïque, où la domination sioniste, évidemment, est toujours là pour évidemment empêcher, ne jamais accepter ce que je viens de dire. Il nous appartient de déstabiliser ce monstre qui s'appelle Israël et qui, depuis le 19e siècle à aujourd'hui, comme je disais hier, comme un TGV, n'a jamais été déraillé. Et ce genre d'initiative, ce sont les seuls aujourd'hui qui peuvent déranger et dérailler ce monstre israélien.